Les nombreux ouvrages sur l'esthétique et l'art baroque s'entendent sur deux points. D'une part, l'unité de l'œuvre se loge plus dans la profusion et l'accumulation des mots et des choses que dans leur valence sémantique. Ainsi, l'hétéroclisme des motifs et les énumérations laissent le tableau ouvert ou fonctionnent, comme le souligne Christine Buss-Glucksmann, une structuration hiéroglyphique opérant par déchiffrement de séries et de correspondances entre tous les règnes et toutes les formes. D'autre part, un goût immodéré pour l'étrange, la distorsion et l'anamorphose permet une exploitation quasi vertigineuse des lois de la perspective et des jeux visuels. Dit autrement, pour reprendre Buss-Glucksmann, une folie du voir est à l'œuvre. Ces traits esthétiques ne sont pas sans rappeler la description des deux théâtres végétaux de la série des Rougon-Macquart, celle de la serre qui protège les amours incestueux de René et Maxime Saccard dans La Curée, et celle du Paradou, véritable réactualisation naturaliste du Jardin d'Éden, qui pousse à la faute le prêtre Serge Mouret et la jeune Albine dans La Faute de l'abbé Mouret. Dans les deux cas, nous retrouvons ce travail de mise en scène décalé, tordu, qui fragilise les certitudes et trouble la vue, une exhibition de la matière qui ondule entre le vivant et le morbide, paradoxe baroque par excellence où, insiste Buss-Glucksmann, il faut de l'abject, du difforme, du laid, de la misère, de la violence et du manque, non pas pour que le monde soit le meilleur des mondes possibles, mais pour qu'il soit. Pour en rendre compte, relisons, avant d'aller plus loin, quelques lignes de ces sanctuaires floraux, de l'intimité dans lesquelles le maladif active fortement le désir des amants tout en le symbolisant. Ainsi, dans la serre, des euriales laissaient traîner leurs feuilles lépreuses, nageant à plat comme des dos de crapauds monstrueux couverts de pustules. Il y avait des euphorbes d'Abyssinie, contrefaits, pleins de bosses honteuses, suant le poison. Les stanopéas aux fleurs pâles, tigrés qui soufflent au loin comme des gorges amères de convalescents, une haleine âcre et forte, un parfum indéfinissable, fort excitant, traîné, fait de mille parfums, sueur humaine, haleine de femme. Et des souffles doux et fades jusqu'à l'évanouissement étaient coupés par des souffles pestilentiels, rudes, chargés de poison. Le Paradou n'a rien à envier à cette atmosphère lascive au relent de léproserie. Là, les échinopsis n'étaient qu'une brosse, une excroissance aux poils roux qui faisait songer à quelques insectes géants roulés en boule. Les opuntias dressaient en arbre leurs feuilles charnues, poudrées d'aiguilles rougies, pareilles à des essaims d'abeilles, microscopiques, à des bourses pleines de vermine et dont les mailles crevaient. Les cérus plantaient des végétations honteuses, des polypiers énormes, maladies de cette terre trop chaude, débauche d'une sève empoisonnée. Le protéiforme et le bizarre s'agitent donc dans ces clandestines alcôves où, on le voit, une esthétique du trop travaille à diluer le réel. Dans la serre et le jardin, la luxuriance de la végétation fixe le regard sur les excroissances atypiques et fiévreuses plutôt que sur le geste qu'elles augurent, l'union charnelle des amants. Ces deux extraits confirment le danger du toucher par l'emploi intempestif de métaphores appartenant au domaine des maladies cutanées. C'est un fait que dans de nombreux cas, dans l'univers des Rougon-Macquart, la scène sexuelle s'articule paradoxalement autour d'un ne limitant guéret. Qu'il s'agisse ici d'amour illicite, l'inceste d'un côté, l'amour d'un prêtre de l'autre, explique encore davantage la présence de ces descriptions morbides qui fonctionnent comme une représentation de l'interdit. Nous croyons cependant que leur profusion, ces citations ne sont en effet qu'un infime exemple de descriptions qui courent sur plusieurs pages, dit autre chose que le défendu. Je ne répéterai pas la litanie des accusations de littérature pornographique, ni les calomnies qu'a supportées Zola, ni les caricatures plus violentes les unes que les autres dont il a été l'objet. Nous les connaissons. Pourtant, une lecture attentive des textes montre qu'au moment des corps pour de bon, l'acte sexuel est souvent réduit au plus simple. « Et tout fut dit », résume le passage à l'inceste entre René et Maxime Saccard. Ou encore dans la serre, lieu privilégié de leurs amours, la catarate descriptive des fleurs maladives se clôt par la phrase « Elle éprouva alors une heure de plénitude ». Idem pour les amours d'Albine et Serge. Suite à ce que nomme David Bagulé la fornication du parc, l'affirmation Albine se livra, Serge la posséda, ralentit subitement la symphonie végétale. Henri Mitran a déjà indiqué le caractère ambigu qu'entretient le roman zolien avec la description de la rencontre des corps. D'un côté, l'acte sexuel qui aimante de nombreuses scènes est mis à distance quand il s'agit de le représenter. De l'autre, l'importance donnée à la tyrannie des pulsions est convoquée pour mieux en éclairer la part monstrueuse. Et David Bagulet a souligné l'apparition de ces formules elliptiques qui réduisent le narré au minimum de temps et d'informations narratives pour un segment de l'histoire qu'on suppose plus compliqué et plus long. Si la question de la censure et celle de la représentation des pulsions morbides justifient de nombreux stratagèmes dilatoires, il n'en demeure pas moins que le touffu descriptif et suggestif, qui encadre les amours de Maxime et René et celui qui initie l'acte sexuel de Serge et Albine font question. Les travaux sur l'esthétique baroque de Bussy-Glucksmann et l'impossible du rapport sexuel que théorise Lacan dans le séminaire Encore seront ici les points d'appui pour cerner cet indicible du texte où tentation et désir sont en jeu. Pour mieux prendre la mesure de ce jeu de masques, citons un peu longuement quelques extraits qui ciblent expressément ceux où les corps sont mis en scène. Maxime vit René agenouillé, penché, avec des yeux fixes, une attitude brutale qui lui fit peur. Les cheveux tombés, les épaules nues, elle s'appuyait sur ses poings. Elle avait la pose et le sourire du monstre à tête de femme. Longtemps, ils demeurèrent sans geste et sans parole dans ce bain de flammes. Maxime terrassée et inerte. René frémissante sur ses poignets, comme sur des jarrets souples et nerveux. René était l'homme, la volonté passionnée et agissante. Maxime subissait. Cet être neutre, blond et joli, frappé dès l'enfance avec ses membres épilés, ses maigreurs gracieuses des faibles romains, c'était pour elle un continuel étonnement du désir, une surprise des sens, une bizarre sensation de malaise et de plaisir aigu. Elle ne savait plus. Elle revenait avec des doutes à la peau fine, aux coups potelés, aux abandons et aux évanouissements de Maxime. Elle éprouva alors une heure de plénitude. Maxime, en lui révélant un frisson nouveau, compléta ses toilettes folles, son luxe prodigieux et sa vie à outrance. Il mit dans sa chair la note excessive qui chantait déjà autour d'elle. Quant à Albine et Serge, tous deux renversés, restèrent muets, perdant haleine, la tête roulante. Albine eut la force de lever un doigt comme pour inviter Serge à écouter. C'était le jardin, le tentateur dont toutes les voix enseignaient l'amour. Les jeunes buissons étaient pleins d'une polissonnerie adorable, d'un vacarme d'amants se poursuivant, se jetant au bord des fossés, se volant de plaisir au milieu d'un grand froissement de branches. Et, dans cet accouplement du parc entier, les étreintes les plus rudes s'entendaient au loin. « Que disent-ils ? » murmura Serge éperdu. « Que veulent-ils de nous ? » à nous supplier ainsi. Albine, sans parler, le serra contre elle. Les voix étaient devenues plus distinctes. Les bêtes du jardin, à leur tour, leur criaient de s'aimer. Alors, Albine et Serge entendirent. Il ne dit rien, il la lia de ses bras, toujours plus étroitement. La fatalité de la génération les entourait, ils cédèrent aux exigences du jardin. Ce fut l'arbre qui confia à Albine ce que les mères murmurent aux épousés, le soir des noces. Albine se livra, Serge la posséda. Dans le premier extrait, la narration s'attarde essentiellement sur la position dominante de René, qui ressemble à un sphinx. La référence au monstre mythique, fruit de l'inceste et agent involontaire de celui d'Oedipe avec Jocaste, et dont la présence ici surdétermine la transgression des amants, souligne une féminité ambiguë marquée d'une virilité déterminée, dont l'aplomb effraie le jeune Maxime, qui est couché sous elle et soumis à ses volontés. Alors que la jeune femme est ramenée à une forme de nature animale, qui est l'un des indices de la curée à venir dont elle sera l'objet, le jeune homme est marqué dans sa chair, je cite, « par un hermaphrodisme étrange qui neutralise son sexe ». Ainsi, pour l'un comme pour l'autre, le genre sexuel est frappé du sceau de l'ambivalence, ni vraiment femme, ni vraiment homme. Les commentateurs ont beaucoup écrit à ce sujet, beaucoup moins, par contre, sur le rapport au savoir, lui, tout aussi trouble que les sexes. Et qui est le point, pourtant, où se pose la question du désir et de l'intime. En effet, on remarque que l'incompréhension qui habite René, ce que le « elle ne savait plus » confirme, et la stupeur qui fige Maxime ne sont pas sans conséquence sur leur jouissance. C'est aussi la question du savoir qui se joue dans la rencontre sexuelle entre Albine et Serge. Longtemps sourds au message explicite du jardin, tout à coup, ils entendent la voix de la fatalité de la génération. Cette injonction explique la prolifération des images surdéterminées par le sexuel qui signalent la force générationnelle. Ici, nous avons affaire à des amants dominés par une volonté à première vue extérieure dont ils ne savent rien, mais qui les pousse à rencontrer le corps de l'autre et à en jouir. Néanmoins, de cette jouissance à outrance, rien n'est véritablement dit, toujours sous-entendu, détourné au profit d'un libertinage décoratif, elle tient de l'ébauche, quoique exaspérée. Entre le corps des amants, végétalisé et une végétation aux accents de pastorale érotique, un concert de voix et de bruit s'élève, provoquant chez Albine et Serge la nécessité de comprendre ce qui se dit. Ce vacarme rappelle en creux le charivari précédant les mésalliances. Dans ce cas-ci, on l'a dit, une jeune fille et un prêtre. Cependant, non pas pour les empêcher, mais pour au contraire les encourager. C'est donc une logique matrimoniale qui est à l'œuvre, ce que réaffirment les confidences de l'arbre faites à la jeune fille. Ce fut l'arbre qui confia à Albine ce que les mères murmurent aux épousés. Le soir des noces. Mais de noces, il n'y a que celle des corps, et de surcroît, elles sont éminemment transgressives. On remarque surtout qu'autour de ces amours illicites, Zola construit à chaque fois un étonnant théâtre esthétique. La surprenante promiscuité entre les règnes végétales, animales et humains fusionne les univers, les étreintes se confondent, les plantes s'humanisent, le corps des amoureux révèle des souplesses de liane ou de félin, etc. Libris à force de loi. Ce chevauchement des frontières instaure un climat d'accouplement monstrueux et d'inquiétante étrangeté. Maxime est terrassé. René doute et ressent un malaise. Serge se sent éperdu et pour cause. Le basculement ordonne un imaginaire de la transgression au sein duquel l'allégresse végétale, dans la serre ou le paradou, célèbre tout en la guidant l'épiphanie amoureuse. En effet, l'accumulation des espèces florales dans chacun des espaces n'agit pas comme moyen de dispersion, mais comme manière d'aiguiller les amants et le lecteur avec eux. Vers l'union sexuelle, même si paradoxalement, la profusion des détails et des variations, la confusion entre les espèces, l'ensauvagement qui préside au combinatoire, densifie l'ensemble et crée une manière de profondeur trouble. L'excès opacifie pour mieux masquer ce qui ne peut être montré. Un au-delà de la représentation en quelque sorte, qui, s'il ne peut être vu, ne cesse pourtant d'agir. L'exposition effrénée des tentations reste en orbite, par rapport à un point d'aveuglement central. Aussi, dans cet insaisissable encadré, agit ce que l'on peut nommer une opérativité baroque. Ajoutons qu'à l'intérieur de la serre et du paradou, au délire cutané, se joint un opéra charnel, qu'exprime une esthétisation musicale des lieux. Ainsi la note excessive qui chante autour de René et Maxime, ainsi les voix qui enseignent l'amour à Serge et Albine, ainsi le vacarme d'amants au milieu d'un grand foisonnement de branches. On le voit, ou plutôt on l'entend, la nature joue le rôle d'un chef d'orchestre, imposant aux amoureux une marche à suivre à laquelle ils ne peuvent qu'obéir. L'exaltation des sons fait en sorte que le corps à corps opère. René est littéralement pénétré par ce chant de l'excès dont Maxime est l'un des instruments. Albine et Serge, quant à eux, dès lors qu'ils entendent distinctement la voix des plantes, comprennent qu'ils n'ont d'autre choix que de s'offrir l'un à l'autre. C'est bien une scène d'apprentissage à laquelle nous assistons, où un certain savoir visuel et auditif se mue, in fine, en expérience charnelle, les sensations n'étant que le pointillé qui y mène. Pour René, le plus que lui offre l'inceste complète, le mot est de Zola, une jouissance en marche d'avant cette transgression. Dans la serre comme dans le paradou, les personnages sont aveuglés par un inéluctable qui les domine, mais dont leur corps est à la fois la toise et le moyen. Ils sont agis, ou pour reprendre la formule lacanienne, ils sont joués par la jouissance. Aussi, suivons-nous Christine Bussy-Glucksmann lorsqu'elle écrit à propos de l'intelligence de l'amour baroque, point de convergence paradoxale en ce qu'il guide et induit en erreur, tout est loi de rencontre et de toucher, tout est dominé par l'opérarie et les faits. Est-ce ce jeu aveuglant qui oblige René à s'approcher au plus près de la peau de Maxime, sorte de grimoire à décoder? Elle revenait avec des doutes à sa peau fine, à son cou potelé, à ses abandons, etc. Que cherche-t-elle dans les plis de la chair, dans l'arabesque du corps abandonné de cet être indéfini, dont la lisibilité reste muette? À suivre le texte, n'est-ce pas justement l'impossible lecture qui chavire la jeune femme ? Comme si la jouissance du corps ne pouvait littérairement s'activer qu'en dehors d'un tout voir et tout montrer, qui est pourtant le credo naturaliste. Ce n'est en effet que par l'écoute de la chair, pénétrée d'une note excessive et donc sans image, sans représentation, exposée de l'intérieur à un plus, que René parvient à une heure de plénitude. Plénitude sur laquelle l'écrivain reste muet. Cette scène de jouissance, où malaise et plaisir se nouent, renvoie de manière cousine à celle de Sainte Thérèse d'Avila, touchée par le dard de l'ange dans le livre de la vie. La suavité causée par cette indicible douleur est si excessive qu'on aurait garde d'en appeler la faim. Cette souffrance n'est pas corporelle mais spirituelle, et pourtant, le corps n'est pas sans y participer un peu et même beaucoup. Mais dès qu'il se fait sentir, le Seigneur ravit l'âme et la met en extase. Ainsi, elle n'a pas le temps d'endurer ni de souffrir. Presque aussitôt, elle entre en jouissance. Donc c'est l'expérience de transverbération de Sainte Thérèse. À travers une indicible douleur excessive, donc vous voyez c'est le terme excessif qui m'intéresse aussi, l'inintelligible du divin se concrétise, ce qui engendre la jouissance. C'est pourquoi la Sainte souligne qu'on ne regarde d'en appeler la fin. On conviendra qu'à certains égards, les deux dispositifs se ressemblent. Ainsi, par l'entremise du chérubin Maxime, être neutre comme un ange, un certain je ne sais quoi, excessif lui aussi, trouve dans l'acte de pénétration de la chair un lieu d'expression qui mène à un état de plénitude, mais d'une heure. Néanmoins, l'absence de transcendance dans le scénario naturaliste marque la différence fondamentale qui sépare les deux expériences. Thérèse, en se laissant transpercer par le dard d'or, dit oui à Dieu et non pas à elle-même. Enfin, le croit-elle, mais disons que nous la prenons au mot. Pour René, c'est tout autre chose. Dire oui à la note excessive, c'est au contraire faire retour sur elle-même. Son plaisir est solitaire et solitude. La réification du jeune homme qui équivaut pour elle en les complétant à des toilettes folles et à un luxe à outrance en témoigne. De ce point de vue, la rencontre, au sens fort du terme, entre elle et lui, n'a pas eu lieu. Dès lors, on peut dire qu'une érotique d'un non-savoir de l'autre s'établit, et la jouissance s'y loge comme une jouissance du manque. La fin de l'extrait du Paradou confirme également la rencontre manquée. En effet, après s'être donné l'un à l'autre, Serge se découvre complet, lui aussi, et dans la complétude de ce dernier, la jeune Albine disparaît. Serge venait dans la possession d'Albine de trouver enfin son sexe d'homme, l'énergie de ses muscles, le courage de son cœur, la santé dernière qui avait jusque-là manqué à sa longue convalescence. Maintenant, il se sentait complet. Quand il se leva, ses pieds se posèrent carrément sur le sol, son corps se développa orgueilleux de ses membres. Maintenant, elle était la servante, elle chancelait un peu, il dut la soutenir. « Oh, tu verras, je me ferai toute petite, tu ne sauras même pas que je suis là. » Mais tu me laisseras ainsi, n'est-ce pas, dans tes bras, car j'ai besoin que tu m'apprennes à marcher. Il me semble que je ne sais plus marcher à cette heure. Elle qui courait beaucoup pourtant auparavant. L'union sexuelle a complété l'un et diminué l'autre. En termes de physique, on peut parler d'un phénomène de transfert irréversible. La jeune fille a servi, son devenir servante n'est pas fortuit, au programme de complétude du jeune prêtre qui retournera à la prêtrise, abandonnant Albine enceinte de lui. Il faut dire que Dieu, comme promesse d'un grand tout, est un rival imbattable. Néanmoins, ne soyons pas dupes, René comme Serge, on est quand même en régime naturaliste, ne sont que des caisses de résonance dont le manque est la condition nécessaire. Ils en feront tous les deux l'expérience, quoique de manière différente. En cela, nous reprenons Sylvie Torel-Caito, qui soutient, je cite, qu'il est manifeste qu'en régime naturaliste, le corps, l'être, le sujet est régi par le manque. L'intégrité ne lui est pas accessible. René, grande poupée dont la poitrine déchirée ne laisse échapper qu'un filet de son, tel que décrite à la fin du roman, en est un exemple probant. Tout comme Serge qui, agenouillé devant un grand Christ de carton peint, remarque qui laisse percer l'ironie zolienne, s'exclame « Vous m'avez brisé dans le péché et dans la tentation. Vous avez voulu qu'il n'y eût plus que des ruines en moi pour y descendre en sécurité. Je suis une maison vide où vous pouvez habiter. » Seulement, l'appel restera sans réponse et Serge démuni. On le sait, la netteté naturaliste est un leurre depuis longtemps démasqué par la critique. Mais que penser de cette volonté déchaînée du texte à exhiber des scénarios évoquant la jouissance, qui fonctionnent par glissement en faisant jouir ceux qui ne jouissent pas, des plantes, des arbres, des fleurs, et qui n'a rien à voir avec un quelconque effet de réel? Que signale cette démesure baroque dédiée au fantasme sexuel? Et si justement la vérité naturaliste et le plaisir du texte se logeaient là, dans ce point de réel impossible, dans ce manque à dire et à montrer, à l'écart de toute représentation? Il semble que l'esthétique baroque hésolienne s'épuise de la même façon à révéler cet inatteignable du rapport sexuel, dont le fantasme possède néanmoins une formidable vitalité narrative et descriptive. C'est un fait que l'orgie végétale, que soutient une jouissance descriptive, scripturaire, lexicale, taxinomique et intertextuelle, bien loin d'un contentement charnel, ne cesse d'exalter un manque. Manque constitutif qui aspire les protagonistes et les pousse à céder au fantasme de la rencontre. Elle qui reste à jamais dans l'imaginaire. Ainsi Dieu peut remplacer Albine, ainsi Maxime peut valoir pour une robe. Toujours la rencontre reste-t-elle en défaut. Dès lors, les personnages demeurent fondamentalement absents l'un à l'autre. Que le point qui sépare les deux phrases « Albine se livra, point, Serge la posséda » réaffirme grammaticalement. Au-delà des questions de censure, nous croyons que l'écriture zolienne, dans cette profusion célébrée, tente de supplier l'impossible du rapport sexuel, impossible dont le maître de Médan a eu l'intuition esthétique avant que Lacan ne le formalise en ces mots, dans le séminaire encore. Dans tout ce qui a déferlé des effets du christianisme, dans l'art notamment, tout est exhibition du corps évoquant la jouissance. Croyez-en le témoignage de quelqu'un qui revient d'une orgie d'église en Italie. À la copulation près. Si elle n'est pas présente, ce n'est pas pour des prunes. Elle est aussi hors champ qu'elle l'est dans la réalité humaine, qu'elle sustente pourtant des fantasmes dont elle est constituée. De la même façon, ce que dessine le romancier, dans ses théâtres naturels et d'artifice, c'est en effet que la jouissance se loge moins dans la rencontre des corps que dans un au-delà ou entre les lignes, ce qui ne l'empêche pas d'agir. Dans ce monde à l'envers où une rhétorique de l'excès barbarise le réel, Zola a tenté de cerner au plus près une jouissance, non pas la jouissance sexuelle, qui l'intéresse au demeurant bien peu, mais plus occultement celle qui traverse les corps en sourdine, qui se faufile et fait acte sans crier gare. Une jouissance qui domestique le sujet quand elle l'entend en le fracturant, sorte de jouissance clandestine, pour reprendre l'expression de Christiane Alberti. Et dont le porteur n'est pas le maître. Ainsi, les protagonistes zoliens sont-ils à leur corps défendant les messagers d'une jouissance qui n'en fait qu'à sa tête. Plus qu'un indicible de la sexualité, c'est l'impossible rapport sexuel qui semble ici formulé et dont l'écriture zolienne a su faire son centre vide, centre que la critique à l'époque s'est évertuée à remplir à coups d'accusations de pornographie. Mais c'est justement le manque qui fait scandale. Vérité nue, insupportable, que supporte la vérité naturaliste. Les corps se croisent et de ne pouvoir se rencontrer, mais dans ce ratage, loin de toute représentation, le mouvement d'un nouage a lieu lors des prises et des déprises qui se succèdent. C'est de ce mouvement, de cette danse savante en quête de sens, dont s'éprend, dans La Serre et le Paradou, la description zolienne. Je vous remercie.